bien compris, à condition d'un certain courage politique et économique. Merci beaucoup Arthur Keller. On peut vous retrouver sur la plateforme de formation SATOR, S-A-T-O-R, de formation en ligne, où vous proposez des cours sur les grands enjeux de notre temps. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre podcast consacré à un sujet environnement.
RTL, il est 1h. 24 heures d'info, Charles Ducrot.
Sciences Po Paris et plusieurs campus toujours bloqués et occupés par le comité Palestine en soutien aux populations de la bande de Gaza. Plusieurs locaux seront à nouveau fermés demain, annonce l'école. Plus tôt dans la journée d'hier, les étudiants ont pu débattre avec l'administration. La position adoptée par la direction reste décevante, jugent les étudiants. 6 d'entre eux ont entamé une grève de la faim. Les agriculteurs vont devoir attendre. Les syndicats reçus ce jeudi matin à l'Élysée actent un rendez-vous manqué. Emmanuel Macron leur a expliqué qu'il ne croyait pas à la fin de la colère du jour au lendemain, tant les causes sont multiples et parfois longues à traiter, estime le chef de l'État. Il ne livrera sa vision pour l'agriculture que dans plusieurs mois. L'actualité, c'est aussi la campagne des européennes et le temps de parole d'Emmanuel Macron pour son discours de la Sorbonne, décompté dans son intégralité du temps imparti à la liste de la majorité. La décision a été rendue par l'ARCOM. L'autorité de l'audiovisuel estime que le discours était en lien direct avec les élections. Carla Bruni-Sarkozy, entendue pendant près de 3 heures ce jeudi par les enquêteurs, suspectée d'avoir joué un rôle pour protéger son époux Nicolas Sarkozy autour de la rétractation en 2020 de Ziad Takieddine, qui accusait l'ancien président d'avoir financé sa campagne présidentielle de 2007 avec des fonds libyens. Concernant d'éventuelles poursuites, aucune décision immédiate n'a été prise par les magistrats instructeurs, selon une source judiciaire. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU demande le retrait du projet de loi sur l'influence étrangère examiné en ce moment au Parlement de Géorgie. Depuis plusieurs jours, d'importantes manifestations secouent le pays. Le représentant de l'ONU dit aussi son inquiétude de l'usage disproportionné de la force contre ceux qui s'y opposent. Deux conducteurs de convois humanitaires de la Croix-Rouge internationale ont été tués au Soudan, annonce l'ONG. 3 employés ont également été blessés. Des hommes armés ont fait irruption sur leur parcours. Les circonstances restent à éclaircir. La région du Darfour est en proie à une escalade de la violence entre armées régulières et groupes paramilitaires contre le régime. Le sport en football, l'OM s'en sort face à l'Atalanta Bergame. Match aller de la demi-finale de la Ligue Europa, 1-1. De son côté, le Bayer Leverkusen a battu l'AS Roma 2-0. Les matchs retour sont jeudi prochain. Enfin, c'est un coup dur pour Lucas Hernandez, le footballeur du Paris Saint-Germain, sorti sur blessure ce mercredi lors de la demi-finale de la Ligue des Champions face à Dortmund. Touché au ligament croisé du genou gauche, Lucas Hernandez est forfait pour le reste de la saison du PSG pour l'Euro avec l'équipe de France. La météo, de la grisaille et du vent pour la moitié nord avec des averses le long des frontières du nord le matin, des averses aussi sur la côte atlantique où quelques orages peuvent encore se développer. Des Pyrénées au sud-est, le soleil s'imposera. Les températures au matin, toujours de la fraîcheur, 1 degré à Toulouse, 4 à Lyon, 8 pour Bordeaux, Nantes et Dijon, 9 à Paris et 12 à Nice. Au meilleur de la journée, vous compterez 13 à 16 degrés pour la moitié nord, 15 à 19 pour la moitié sud. Enfin, les courses ont lieu à Vincennes ce vendredi, départ 20h15. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 16, l'As, le 2, le 4, le 7, le 12 et le 14. L'outsider d'RTL, le 4, Ulysse Digéo.
RTL, 24 heures d'info. RTL, jour J, avec Flavie Flamand. La rediffusion.
L'actualité est faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Et ce soir, on vous fait découvrir la mafia dont on dit qu'elle est la plus puissante du monde, les triades chinoises. Merci d'être fidèle à jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
On est présent dans le monde entier. S'agissant de l'Europe, des organisations locales font appel à nous pour se développer.
Elle s'appelle Bambou Uni, Alliance Céleste ou encore 14K. Elles sont implantées depuis des siècles, ont traversé les époques, soutenant les régimes ou provoquant leur chute. Elles versent le sang et brassent des milliards. Ce sont les triades chinoises. Des organisations criminelles qui nous semblent lointaines et pourtant pas tant que ça. À tel point que des producteurs éclairés en ont fait une série qui cartonne sur Netflix. Notre invité les a rencontrés. Il nous raconte ce soir. Antoine Witkin, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes réalisateur d'un documentaire en trois volets, Triade, la mafia chinoise à la conquête du monde, diffusé le 9 janvier sur Arte, disponible également en replay et sur YouTube, et que l'on conseille à ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'on parle ce soir de la mafia la plus puissante du monde ?
Oui, c'est la mafia la plus puissante du monde, pour une raison très simple à comprendre, c'est qu'elle est à l'échelle de la puissance et de l'importance
du pays,
de la Chine et de l'économie chinoise et de ses réseaux à l'étranger. Et donc effectivement, je pense que sans aucun doute, on peut dire qu'elle est la plus puissante, à la fois en volume et même en nombre d'activités. On en parlera certainement, mais la gamme des activités des triades chinoises est assez impressionnante.
Antoine Witkin, elle est méconnue pourtant, cette mafia. Pourquoi ? C'est parce qu'elle est loin de nous et pas tant que ça ? On va l'expliquer aussi.
C'est une vraie question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse. Mmh. On la connaît très mal. Je la connaissais très mal, voire quasiment pas. Je me suis jamais tellement intéressé aux mafias, mais j'avais une culture générale, comme j'imagine la plupart de vos auditeurs, sur la mafia italienne, qu'on a vu dans des films, voire même sur la mafia russe, qu'on arrive à peu près à mettre en image, voire même sur les yakuza japonais. Mais alors les triades, j'aurais été incapable de mettre une image sur les triades. On les connaît mal. En fait, moi, ma réflexion après ces deux ans et demi de travail sur le sujet, c'est que finalement, on les connaît mal parce que on connaît assez mal la Chine, en fait, tout simplement. Ça peut paraître idiot, mais en réalité, on a l'impression de connaître la Chine, mais en fait, son histoire, son fonctionnement, on connaît ça très mal. Et je l'ai découvert en travaillant sur les triades. J'ai découvert, par exemple, à quel point elles étaient enracinées dans l'histoire de Chine. Et à cette occasion-là, je me suis dit, effectivement, je connaissais pas vraiment, réellement, l'histoire de Chine.
Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une triade ? En fait, c'est un surnom britannique.
C'est ça. Ce qui est très frappant, et là aussi, c'est ça rend les choses évidemment plus compliquées à appréhender, c'est que même le nom de ces organisations n'a pas été donné par ces organisations elles-mêmes. Ça s'appelle les sociétés secrètes au départ. Moi d'ailleurs, quand j'étais en contact avec les différents intervenants, membres des mafias, on a entendu tout à l'heure le tyran de fer, qui est le chef, le parrain des parrains d'Alliance Céleste, la plus importante triade. Je me demandais comment est-ce qu'il faut que j'évoque le sujet que je suis en train de faire. Est-ce qu'il faut que je parle d'organisation en étant un peu comme ça, sans rentrer dans les détails, de mafia. En fait, ils utilisent eux-mêmes un mot qui correspond au mot mafia en chinois de manière très simple. Mais effectivement, pour revenir à votre question, ces organisations étaient des sortes de sociétés secrètes. C'est comme ça qu'elles s'intitulaient, avec des noms assez précis, qui étaient criminelles et politiques au sens où elles avaient une emprise sur des territoires et sur des gens. Et donc, elles étaient très présentes à Hong Kong. Et lorsque les Anglais, à partir du 19e siècle, se sont mis à contrôler le port de Hong Kong et ont découvert ces puissances avec lesquelles elles ont dû compter, les Britanniques ont dû compter, elles se sont dit, on va les surnommer triades. Parce que l'une des sociétés secrètes s'appelait la Société des Hommes du Ciel et de la Terre, que ça leur rappelait vaguement des rites un peu ésotériques de la franc-maçonnerie, avec cette notion de triangle, enfin, par association d'idées, c'est devenu les triades. Mais effectivement, et c'est une des spécificités de ces organisations, elles-mêmes ne se nomment pas triades.
Vous en parlez comme d'une pieuvre.
C'est une pieuvre, c'est une pieuvre absolument hallucinante. J'ai creusé, par exemple, pour vous donner juste un exemple, leur ancrage aujourd'hui, sur l'île de Taïwan, où elles ont toujours été assez présentes. Elles sont arrivées là après la défaite des nationalistes de Chiang Kai-shek face à Mao Tse-tung. Et simplement à Taïwan, ce que j'ai découvert petit à petit, c'est que elles ont évidemment des activités criminelles. Donc elles contrôlent le monde de la nuit, le monde de la prostitution, le trafic de drogue, le trafic d'armes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Mais par ailleurs, elles ont des ancrages dans différentes villes où elles contrôlent parfois des municipalités. Elles ont parfois des députés. On m'a même nommé un député de la législature précédente en me disant « Ah bah lui, c'est le mec de telle triade. » Il y a trois triades principales à Taïwan. Elles ont par ailleurs des activités légales parce qu'évidemment, elles brassent tellement d'argent, ces organisations. Et là, on parle de milliards. Vous demandiez si c'était les plus puissantes du monde, c'est en tout cas les plus riches. Que donc cet argent doit être réinvesti. Et à Taïwan, par exemple, il est réinvesti dans des hôtels, dans des groupes médias, dans des groupes de BTP, etc., etc. Donc oui, ce sont des pieuvres en ce sens-là, et c'est des pieuvres également parce que elles ont un ancrage, un enracinement mondial. Et ça, depuis longtemps. Ça fait des décennies que, petit à petit, elles avancent et qu'elles mettent en place des relais d'influence, des branches locales à travers l'Occident.
Antoine Witkin, vous avez pu rencontrer plusieurs membres de différentes triades et notamment le boss d'Alliance Céleste. On l'appelle, vous l'avez cité, un tyran de fer. Franchement, on s'en ferait pas un pote, hein. Mais vous, vous l'avez rencontré. Vous nous expliquerez dans quelles circonstances. Ce sera dans un instant dans la suite de Jour J. À tout de suite.
Jusqu'à 2h sur RTL, Jour J, la rediffusion.
flamand sur RTL.
Georgie, qui ce soir vous fait découvrir les triades chinoises grâce à notre invité Antoine Vitkin, réalisateur d'une série documentaire en trois volets que vous pouvez retrouver sur Arte et sur YouTube. Antoine, vous êtes avec nous pendant une heure pour nous parler de la pieuvre. Vous venez très bien de nous décrire le crime organisé chinois, cette façon qu'il a eu de s'implanter et de devenir aussi incontournable dans l'histoire de ce pays que l'on connaît, qu'est la Chine. Vous avez pu rencontrer des parrains, justement, de la mafia chinoise. Alors, racontez-nous l'histoire. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous êtes retrouvé finalement à la tête de ce doc?
En commençant à travailler sur ce sujet, je suis parti vraiment de zéro, je n'y connaissais rien. Donc j'ai commencé pendant 2-3 mois à faire des organigrammes avec un assistant que j'ai embauché, qui parlait lui chinois, moi je ne parlais pas chinois, à faire des organigrammes pour comprendre de qui on parlait. Tout
simplement. Comme dans les films?
Sur mon ordinateur, okay. Mais comme dans les films, oui, okay. le chef, le sous-chef, qui, à comprendre de quoi on parlait. Donc ça a mis un certain temps. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à construire le film, évidemment, je voulais interviewer ces gens-là. Et je m'étais dit au départ, je vais avoir plein de repentis, comme dans les mafias. On en voit dans les documentaires sur la mafia italienne. Et puis alors, avoir des mafieux en activité, ça va être très compliqué. J'en aurais peut-être des floutés. Finalement, ça a été l'inverse. Je me suis aperçu qu'il y avait quasiment aucun repenti, ce qui raconte quand même leur violence lorsqu'on quitte, lorsqu'on trahit à leurs yeux. Et par ailleurs... Je ne vous dis pas que ça a été simple. Là aussi, ça a été des mois de travail. J'ai été bien aidé d'ailleurs. J'ai eu de la chance, parce que c'est aussi ça qui joue. Et j'ai été bien aidé par un fixeur, par exemple. Un fixeur à Hong Kong et un autre à Taïwan, qui déjà connaissait un peu l'île. Et puis par des intermédiaires. Et finalement, pour résumer, la plus grosse prise, entre guillemets, c'est-à-dire l'interview, l'entretien le plus frappant, le plus important pour moi, ça a été celui que m'a accordé, à la surprise générale, je dois dire, y compris à la sienne d'ailleurs, parce que j'ai essayé de comprendre ensuite pourquoi il m'avait rencontré, le tyran de fer, donc le parrain des parrains d'Alliance Céleste.
J'ai payé mon tribut. J'ai été souvent en prison. Avoir une position dans l'organisation, c'était mon but, l'objectif d'une vie. Mais peut-être pas aussi jeune.
Alors, le tyran de fer, c'est ainsi qu'on l'appelle, parrain d'Alliance Céleste, qui est donc l'une des triades les plus puissantes. C'est pas un rigolo, hein? Vous allez nous raconter son parcours, le personnage aussi.
Ce qui est frappant, c'est la forme de franchise avec laquelle il parle. Oui. Et là, il est là, effectivement, en train d'expliquer ce que sont ses problèmes. On a l'impression d'entendre un chef d'entreprise. En l'occurrence, c'est le cas, hein? Enfin, il dirige 300 branches avec des milliers de personnes, etc. Il vous raconte ses problèmes de management. En fait, effectivement... Le tyran de fer, alors c'est quelqu'un qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison, et d'ailleurs il explique très bien dans la série que c'est comme ça qu'on gagne en crédibilité. Ça ressemble à toutes les organisations criminelles qu'on connaît. Son fait d'arme, c'est d'avoir été le chef de l'unité qui s'appelait les Tigres, qui était l'unité des tueurs de la triade, qui d'ailleurs s'était lancé dans des opérations à l'intérieur de la triade, des combats internes à la triade pour éliminer une branche dissidente. Enfin voilà, donc c'est comme ça qu'il s'est imposé. Il a donc passé beaucoup d'années en prison pour meurtre. D'ailleurs, il a échappé à la peine de mort. Et aujourd'hui, il a 56 ans. Il est assez jeune pour occuper ce poste. Il a été nommé un an avant que je le rencontre. Il a été nommé par un des parrains. C'était un peu une surprise pour tout le monde, d'ailleurs y compris pour lui. Normalement, il le dit, la place aurait dû revenir à son parrain à lui, qui est beaucoup plus âgé, et finalement ça a été lui.
Et d'ailleurs, vous avez assisté à une sorte, je dirais, de comité de direction, de réunion de direction en mode mafia, où on voit donc tyran de fer avec le cigare dans un fauteuil assez ornementé, en bois, et de chaque côté, des parrains qui sont là et qui viennent rendre compte de leur travail.
C'est ça. Il m'expliquait très bien qu'il était devenu aujourd'hui une sorte de PDG un peu informel. Ça veut dire que il n'exerce pas forcément le pouvoir sur chacune des branches. C'est-à-dire que chacun est responsable de son business. Celui qui gère un trafic d'armes gère son trafic d'armes, etc., etc. Et ça à l'échelle mondiale. Et lui, c'est un peu le juge de paix, si vous voulez, ou la reine d'Angleterre. Il a un peu moins, je pense, de fonctions exécutives qu'avant. Et donc, effectivement, ce jour-là, il se réunissait avec son conseil d'administration, ses principaux lieutenants. Je vous dis ça, c'est ce qu'on m'a expliqué. Je ne sais pas exactement qui était qui, ce serait un peu compliqué de savoir exactement... les fonctions des uns et des autres, mais en tout cas c'est l'événement auquel j'ai insisté et auquel il est arrivé effectivement. Moi j'avais rendez-vous avec lui, il est arrivé dans un convoi avec 6 ou 7 voitures, au moins une cinquantaine de gardes du corps, et puis ses lieutenants et son conseil d'administration, entre guillemets.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous le voyez rentrer et que vous assistez à tout ça?
J'étais pas spécialement inquiet parce que j'avais confiance dans sa parole. Le monde de la mafia, c'est un monde de parole. C'est-à-dire que si on n'a pas de parole, on peut pas exercer des fonctions importantes dans une mafia puisque ça repose beaucoup sur ça. Donc ça, j'avais pas de problème. J'étais un peu sous tension. Mais en fait, ce qui me stressait le plus, c'était de me dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il me voit? Et en fait, je dois dire que j'ai commencé à comprendre au moment où il est arrivé. C'était, voilà, le convoi arrive, c'était assez impressionnant. Et on voit les images dans la série. Et pourquoi? Au bout d'un moment, on commence à discuter. Et puis, à un moment, je dis à un de ses lieutenants, bon, quand vous êtes arrivé, c'était assez impressionnant. Est-ce qu'éventuellement, s'il vous plaît, je pourrais filmer l'arrivée du convoi? Vous pourriez repasser avec le convoi, sans le parrain à l'intérieur, mais juste le convoi. Est-ce que ce serait possible? Et là, le mec me dit tout de suite, oui, oui, bien sûr. Et là, j'ai compris pourquoi il voulait me voir. Je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est ça. Bon, CQFD, il veut montrer sa puissance. Il veut rencontrer un journaliste français pour raconter aux Français, aux Européens, aux Occidentaux à quel point il est puissant, parce que c'est son intérêt. Et à partir de là, j'ai été plus rasséréné parce que je comprenais le cadre de notre rencontre.
Et la vanité, elle est présente beaucoup hein, chez les parrains. Certains pêchent même par vanité. On parlera tout à l'heure de dents cassées. J'allais vous demander qui sont ceux qui servent les triades. Mais on va se retrouver dans un instant justement avec vous. Vous allez entendre un témoignage de la clope. La clope qui fait partie donc de Bambou Uni. Ils ont tous des noms quand même là-dedans. C'est quelque chose hein, parce que ce soir, on va parler du vaurien, du cogneur, du dragon acadieux, de dents cassées, de d'où les grandes oreilles. Enfin, ça en fait des choses. On se retrouve dans un instant. Ce ne sont pas des personnages, c'est la réalité qu'on vous raconte. À tout de suite dans Jour J.
Jusqu'à 2h sur RTL, Jour J, la rediffusion.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie là. Symphonie des éclairs.
Et c'était Zao de Sagazan avec la Symphonie des éclairs sur RTL.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Antoine Witkin est notre invité ce soir. C'est lui qui nous donne la clé d'un univers d'ordinaire complètement fermé, qui est l'univers de la mafia chinoise. On les appelle les triades chinoises. Vous avez rencontré Antoine Witkin pour les besoins de votre documentaire À la conquête du monde, diffusé sur YouTube. Vous avez rencontré ceux qui font la mafia chinoise. Maintenant, on va parler, si vous le voulez bien, de ceux qui la servent, cette mafia. Vous avez fait la connaissance également de la clope de bambou uni.
Chaque jour, on est fourré ensemble. Mes frères du gang, je les considère comme ma famille. Notre principe, c'est que dès qu'il y a un bon plan, on en discute tous ensemble. On se place toujours du point de vue du gang, parce qu'on n'a pas vraiment d'intérêt personnel. Si le gang survit, on survit. Si le gang gagne de l'argent, on en gagne.
Voilà, c'était la clope de Bambou Uni. J'ai l'impression d'être dans un dessin animé genre Kung Fu Panda, vous voyez. Une conversation ce soir qui est assez singulière. Alors, qui est la clope et qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer là?
J'ai voulu ne pas avoir seulement des chefs, mais aussi des simples employés des triades. La clope, c'est l'équivalent d'un cadre moyen de la triade. Ça, c'est un cadre. C'est-à-dire qu'il a 35 ans, il a commencé à l'école, comme souvent, et puis petit à petit, il a gravi les échelons, il a fait ses preuves en se battant, en faisant un peu de prison, pas beaucoup. Et puis maintenant, c'est un cadre moyen, ça veut dire qu'il est sous-chef d'une branche de Bambou Uni. Alors, il y a des Bambou Uni doit avoir des plusieurs dizaines de branches, 200, 300, je sais pas exactement. Donc il est sous-chef d'une des branches et donc son activité quotidienne en ce moment, c'est de gérer un club d'escorte de la triade, un des plus gros d'ailleurs de Taipei, donc c'est pas mal. Évidemment qu'il ne lui appartient pas, qu'il appartient à la triade. Et donc ce qui était intéressant, c'est qu'on le suit comme ça assez longuement à différents moments de sa vie, de son activité, pour ce qu'il a pu nous en montrer évidemment, et qui raconte vraiment son parcours, comment on tombe dedans, et on comprend d'ailleurs avec les propos que vous avez diffusés que, et c'est le cas pour toutes les mafias, une mafia c'est pas seulement une organisation criminelle, c'est pas seulement une entreprise pour laquelle on travaille, c'est aussi quelque chose de très collectif dans lequel on tombe. Alors on tombe, hein. C'est pas quand il dit que c'est une famille, il a pas le choix de sa famille.
Il y a un côté un petit peu angélique finalement dans cette histoire, mais vous le disiez en fait en début d'émission, ceux qui sont des repentis, en fait, on ne les entend pas. Pourquoi on ne les entend pas? C'est parce qu'ils n'existent plus en fait. Hein. C'est qu'on n'a pas accès à des repentis en vie. Ouais. Ouais. En fait, la violence, elle est à tous les niveaux.
De toute façon, une triade comme toutes les mafias, c'est d'abord la violence. C'est par la violence qu'on exerce un pouvoir pour gagner de l'argent. C'est tout. Et le pouvoir, il est à l'extérieur pour effectivement intimider ou prendre l'argent, s'en saisir, ou bien à l'intérieur, c'est-à-dire pour s'assurer de la loyauté de ses membres. Et là, la loyauté, c'est vraiment le nerf de la guerre pour les triades comme pour toutes les mafias.
On tombe parce qu'on est dans un moment de vulnérabilité, parce que les triades sont très fortes. Dans les années 80, le recrutement se faisait aussi chez les migrants chinois qui rallient Hong Kong par la mer.
Absolument, il se fait dès qu'on peut. Surtout les gens qui sont suffisamment désocialisés ou malléables pour devenir des soldats utiles. Donc effectivement, à Hong Kong, qui était dans les années 80 une des bases arrières des triades, vos auditeurs le comprendront dans la série, pourquoi est-ce qu'elles se sont retrouvées à Hong Kong, et donc des migrants chinois arrivaient, et puis effectivement, elles étaient de la main-d'œuvre bon marché et malléable pour les triades, absolument.
La violence, elle régit ces triades à tous les niveaux, je le disais. On va écouter Holger Chen, qui a rompu, lui, avec Bambou Uni.
Ces gens ne veulent pas respecter la loi. Chacun invente ses propres règles mafieuses. En réalité, on rejoint une mafia parce que les parrains ont l'air d'avoir du fric, de la classe et de la puissance. Ça a été mon cas.
Le fric, il est partout.
Le fric est partout. Je pense que c'est la même chose pour toutes les mafias. Mais en tout cas, moi je connais donc les triades chinoises. Le fric, c'est l'horizon, c'est on gagne de l'argent par la violence. Mais pour vous dire, si vous voulez, où ça va, c'est qu'à la fois, il y a des gens richissimes. Je mentionne dans la série un grand chef d'une triade qui est finalement tombé, qui est brassé entre 300 et 700 milliards de dollars par an. Alors, pas que pour lui, mais il brassait ça en termes de blanchiment dans ses casinos de Macao. Mais ce dont je me suis aperçu, c'est que ces triades, ou des branches de cette triade, étaient capables d'exercer des violences absolument hallucinantes contre des gens pour gagner, je sais pas, il gère par exemple des sortes de centres d'arnaque sur Internet, et pour gagner des évidemment additionner c'est beaucoup, mais pour gagner des quelques euros, quelques dollars, on est capable d'exercer des violences absolues. On est capable, alors la clope d'ailleurs le raconte à un moment, il va se faire rembourser d'une dette de 100 dollars. Alors lui il est pas violent à ce moment-là, mais en tout cas il intimide suffisamment pour se faire rembourser. Donc ça veut dire que c'est vraiment un système où un sou est un sou réellement, et où pour un euro, On est capable d'exercer une grande violence si quelqu'un vous doit, voilà, a une dette et vous doit un euro. Ou pour l'acquérir, ou pour arnaquer un certain nombre de gens pour gagner de l'argent. Donc c'est vraiment l'argent, c'est le critère numéro un, finalement, derrière tout ça, et qui en fait est plus important que les rites, que la mythologie ou que toutes sortes de choses.
Dans ce documentaire aussi, on se rend compte, et je dirais que ça fait partie du parcours classique du crime organisé, que finalement les triades ont réussi à s'immiscer dans tous les pans de la vie des Chinois.
À cette époque, en tant que Hongkongais, lorsque vous vous leviez le matin et que vous preniez votre café, le restaurant était probablement géré par une triade. Quand vous preniez un bus, la ligne était contrôlée par une triade. Après le travail, quand vous alliez au cinéma, le film était produit par une triade. En fait, tous les aspects de votre vie étaient liés aux triades.
Voilà, quand on écoute ça, en fait, on se rend compte que avec la mafia chinoise, les triades chinoises, on respire triade, on vit triade, on mange triade.
Ça dépend des lieux et des endroits.
Elle parle de quelle époque là ?
Là, elle parle des années 80-90 à Hong Kong. Hong Kong, base arrière des triades. Elles sont également très implantées à Taïwan, par exemple, ou à Macao. Évidemment, c'est moins le cas en Chine continentale. Mais effectivement, ces années-là à Hong Kong, c'était saisissant. C'est une partie de la série, d'ailleurs. Et à un moment, je crois que je cite un chiffre de la police de l'époque qui considère qu'il y a d'ailleurs quelques millions d'habitants à Hong Kong et qu'il y a 500 000 personnes qui, peu ou prou, sont liées aux triades. Donc ça vous raconte un peu l'implantation.
Voilà, et effectivement, vous l'avez dit, la police était corrompue à tel point que dans les années 20... D'où les grandes oreilles, c'était son surnom, qui dirigeait la triade, la bande verte, a réussi à prendre la tête de la police de la concession française.
Et quand je pose la question au tyran de fer, le patron actuel, le parrain des parrains actuels, quels sont vos personnages de référence? Assez vite, on tombe sur d'où les grandes oreilles. Je cite d'où les grandes oreilles. Donc, je m'intéresse à d'où les grandes oreilles. C'est genre, c'est des noms. Le principal chef de Bamboo Uni historique s'appelait Canard Sec. Voilà. Mais il faut pas se fier au nom un peu fleuri.
C'est pas si drôle, en fait.
C'est pas des gens très amusants. Et d'où les grandes oreilles a fait fortune dans la prostitution, d'ailleurs, à Shanghai dans les années 20. Ouais. Prostitution, quand on parle de prostitution, moi, j'ai découvert ça, des conditions de vie absolument hallucinantes. Ouais. Les filles tenues en esclavage et dans ces bordels avaient une espérance de vie de quelques années. Enfin, c'est quand même d'une violence. C'est évidemment, tout ça est assez rocambolesque, voire romanesque, parce que ce sont des vies hors du commun, c'est mafieux. Mais toujours, il faut quand même toujours le garder en tête, il y a comme finalité la violence, et parfois une violence intense. Et donc, d'où les grandes oreilles, est devenu tellement puissant que dans les années 20, il est devenu le chef de la police, de facto, de la concession française. Les Français avaient contrôlé un quartier de la ville de Shanghai, et le bras armé du régime de Chiang Kai-shek, régime nationaliste. Et quand Chiang Kai-shek est parti à Taïwan après la défaite face aux communistes, eh bien, d'où les grandes oreilles, a aidé le régime de Chiang Kai-shek à exercer ce qu'on appelle là-bas la terreur blanche pour obliger les natifs de Taïwan, eh bien, d'accepter le joug du parti de Chiang Kai-shek.
On abordera effectivement un petit peu plus tard comment les triades et la mafia chinoise ont épousé, voire influé les mouvements du pays. Il en est un autre, il s'appelle Dan Cassé. Alors, il avait un peu le melon, Dan Cassé, c'est d'ailleurs un peu ça qui l'a fait tomber. Et pourtant, Dan Cassé est très très fort parce que c'est aussi, il a marqué un tournant, je dirais, dans l'histoire des triades chinoises. On se retrouve dans un instant pour en parler. Vous le présentez, à tout de suite.
RTL, jour J, avec Flavie Flamand. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. Knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? I'm
want your body like a feeling, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I'm losing control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see?
C'était Teddy Swims avec Lose Control sur RTL.
RTL, jour J.
Avec Flavie Flamand.
Si un mafieux débarque pour te dire « Tu joues pour moi demain », tu peux pas refuser. Sinon, il sort son arme. Pour eux, c'est facile de recruter. T'oses pas refuser et en plus, t'acceptes un salaire plus bas. Certains te payent même pas une fois le film terminé. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est eux qui te tuent, pas l'inverse.
Jour J, ce soir, vous plonge donc dans les histoires de la mafia chinoise. Celui que vous venez d'entendre, c'est un comédien, c'est un acteur chinois. Car figurez-vous justement que les triades se sont entichées du milieu du cinéma dans les années 90. Et c'est l'occasion pour nous, Antoine Vidkin, de parler de Dents Cassées, parce qu'il a marqué un tournant dans l'histoire des triades. Alors, Dents Cassées, je disais il y a un instant, il avait le melon. En tout cas, il a pêché par vanité. Il a quand même réussi à avoir sa photo dans le Time Magazine.
Donc assez, franchement, c'est en soi un...
C'est un personnage de ciné.
C'est un film, c'est le Tony Montana chinois, on ne connaît pas du tout ici. Pour résumer très rapidement sa vie, il vient évidemment d'un milieu de bidonville de Hong Kong. Hein, c'est souvent il y a de l'ascension sociale, hein, évidemment, au travers de la mafia, on s'en doute bien. Ensuite, il arrive à Macao, qui est juste à côté de Hong Kong. Il appartient à une des triades qui s'appelle la 14K. Il veut mettre la main sur les casinos parce qu'il est hyper violent. Il finit par le faire. Et donc effectivement, il canarde. Enfin, ils arrivent avec des kalachnikovs. Il défouraille à tout va. Alors là, il devient d'un coup très riche et célèbre à l'échelle de Macao, au point où effectivement, il est le premier, et à mon avis quasiment le seul mafieux à faire l'objet d'un reportage et d'être pris en photo à cette époque-là. Il y a très peu de reportages et documentaires sur le sujet. Hein. C'est pas, ils aiment pas, ils ont un rapport à la publicité qui est un peu particulier.
Et la photo est géniale, hein, pardon.
Et la photo est géniale.
Tout en puissance.
Et il a tellement le melon qu'il fait également autre chose. Puisque à cette époque-là, vous y avez fait allusion, les triades ont compris que le cinéma, c'était non seulement un moyen de gagner de l'argent, hein. Encore une fois, c'est d'abord leur but, le cinéma ça marche, on va prendre le contrôle du cinéma, mais par ailleurs, de faire leur pub à travers les films. Ils ont bien compris que ça peut rendre glamour les gangsters. Et donc Dents Cassées, qui effectivement a quelques ambitions, décide de faire tourner un film sur lui-même. Qui s'appelle
donc un biopic.
Un biopic qu'il appelle Casino. Et on est peu de temps après
Scorsese.
Après Scorsese. Il dit de toute façon Scorsese c'était pas génial, moi je vais faire Casino. Il fait tourner Casino. Et si vous voulez, cet idiot a besoin à un moment de bloquer un pont. Il avait une Testarossa, je crois, enfin une voiture violette en plus, enfin invraisemblable. Il a besoin de faire bloquer le principal pont entre Hong Kong et Macao pour une scène. La police, enfin les autorités refusent. Avec ses hommes en armes, il bloque le pont. La voiture passe. Et là, ça a été la goutte d'eau. Et donc, l'année suivante, la veille de l'avant-première de son film Casino, ouais, la police lui saute dessus, il est arrêté.
Enchaînement de violence.
Alors, pour le faire libérer, ses copains font une cinquantaine d'attentats à la bombe, dont je montre les images, des attentats à la bombe, hein, je ne sais pas si vous imaginez.
À Macao.
À Macao. Le personnage est condamné à de la prison, il y passe une quinzaine d'années, et il sort, et alors là je veux pas spoiler la série, mais je peux vous dire que quand il sort, c'est toute le dernier épisode de la série, et il se passe pas mal de choses.
On va en parler un petit peu, si ça vous dérange pas, un petit peu plus tard.
Sans spoiler. Hein.
Sans spoiler, mais c'est quand même aussi avec lui que la guerre des triades est arrivée. La guerre entre triades, la violence entre triades, parce qu'il était hyper sanguinaire Dents Cassées.
Oui, il est très, très brutal. Les triades, effectivement, ça peut être une des différences avec d'autres organisations. Je pense au cartel sud-américain, par exemple. Les triades sont plus malins que ça et elles n'aiment pas beaucoup se faire trop remarquer. Ça veut dire que quand on se tire dessus dans la rue, c'est pas très bon pour les affaires. Je pense que c'est valable pour toutes les mafias, mais particulièrement pour les triades chinoises. Donc il y a assez peu souvent, en fait, dans les journaux chinois, d'histoires comme ça, de fusillades ou de choses très massives. Donc assez, lui, a cassé les codes. Et c'est comme ça qu'il s'est imposé, d'ailleurs. Et effectivement, mais ça, on s'en doute, mais en tout cas, entre les triades, il y a évidemment des concurrences très importantes. On se bat, d'ailleurs, à l'intérieur des triades ou entre différentes triades pour le contrôle de telle ou telle activité. En l'occurrence, c'était les casinos qui suscitaient la convoitise. Mais le cinéma aussi. Vous diffusiez ce témoignage de cet acteur. Ça s'est terminé dans la violence. Ça veut dire qu'effectivement, on m'a raconté comment telle triade avait son actrice star de l'époque qui jouait dans son film, et puis vous avez une autre triade qui débarquait et qui allait attraper l'actrice par les cheveux pour lui dire bah, « maintenant, tu joues pour nous ». Alors là, évidemment, la triade qui l'a protégée intervenait et ça se terminait avec quelques morts. Oui, c'est ça, les triades.
On vous écoute et vous racontez les histoires formidablement, et parfois on est tenté de sourire, et parfois, effectivement, on prend la mesure de cette ultra-violence finalement qui régit le monde de la mafia chinoise. Il y a la violence et puis il y a aussi l'argent. Celui que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est Alvin Chow. Alvin Chow et les milliards de la Sun City à Macao. Racontez-nous.
Alors, une des activités des triades, hein, il y en a beaucoup encore une fois, c'est le jeu. Casino, le jeu, les jeux légaux, illégaux. Et donc, à travers
ça fait partie, pardon, mais finalement, du process de toute mafia.
Absolument. Et à travers le jeu, le blanchiment. Parce que vous vous en doutez, lorsqu'on arrive dans un casino avec des dollars qu'on donne à la caisse, qu'en échange on a des jetons, et qu'en ressortant du casino on transforme à nouveau les jetons en dollars ou en ce que vous voulez comme monnaie, c'est assez pratique pour blanchir de l'argent. Et en fait, Alvin Chow, un ancien bras droit de Dancassé, d'ailleurs Alvin Chow s'est lancé en allant visiter Dancassé en prison, en demandant à Dancassé de l'aider à se lancer, Dancassé lui a donné un peu d'argent. Comme vous imaginez, quand Dancassé, plus tard, 20 ans plus tard, est sorti de prison, ça a provoqué quelques étincelles pour qu'Alvin Chow se lance. Et Alvin Chow a réussi mieux que le maître. Il s'est mis à contrôler, au sein des casinos de Macao, ce qui s'appelle des junkets, enfin, c'est-à-dire des entreprises, si vous voulez, qui permettent, et je vais vous résumer ça en deux mots, mais vous allez comprendre à quel point c'est intéressant pour tous ceux qui veulent blanchir leur argent, qui proposent à des gens de débarquer avec 5 000 $, par exemple. En échange des 5 000 $, on leur prête 50 000 $ fois 10, qu'ils peuvent jouer au casino ou bien ne pas jouer au casino et transformer et déposer sur un compte où vous voulez, à Singapour, en Australie, aux États-Unis, etc. Et en échange, ils remboursent ces 50 000 $ depuis la Chine même, puisque c'était beaucoup la Chine qui était en question. Et évidemment, cet argent avec lequel ils remboursent, c'est de l'argent mal acquis, c'est de l'argent de la corruption, c'est de l'argent de trafic, c'est ce que vous voulez. Et donc, on en était venu à un moment où, en 2012-2013, on estimait que entre 250 à 600 milliards de dollars disparaissaient comme ça dans les casinos de Macao. Et cet argent, c'est de l'argent, effectivement, blanchi, c'est une partie du PIB chinois qui s'évapore comme ça, par les casinos de Macao. Et d'ailleurs, j'ai rencontré un homme d'affaires chinois qui est aujourd'hui en exil à Londres et qui raconte face caméra comment, effectivement, c'était le sport national à l'époque, c'est-à-dire on essaye d'éviter les impôts, on essaye d'éviter l'État chinois, et donc on va à Macao pour blanchir son argent.
Et à propos d'État chinois, justement, tout ça, ça coïncide avec le moment où émerge un nouveau dirigeant, dont on entend beaucoup parler, qui s'appelle Xi Jinping, qui va lancer des opérations anti-mafia à Hong Kong, à Macao et en Chine en règle générale.
Xi Jinping arrive et en fait il comprend que la corruption et la criminalité c'est un problème pour les Chinois, que ça menace l'emprise du Parti communiste chinois réellement. Je diffuse dans la série des images de batailles en pleine rue d'une des principales villes du centre de la Chine. On a l'impression d'être dans les ghettos de Tijuana, si vous voulez, alors qu'on est en Chine et on a cette impression pourtant de Chine avec la vidéosurveillance, le contrôle social, on en est quand même très loin. Et donc il décide de réprimer les mafias, mais pour ça il lui faut 10 ans. Entre le moment où il arrive au pouvoir en 2012 et la chute d'Alvin Chow, c'est 10 ans. Il lui faut 10 ans pour faire tomber Alvin Chow.
Et bien justement, la suite, on vous la raconte dans un instant et puis vous allez nous expliquer les liens aujourd'hui aussi et comment ils se sont tissés entre le pouvoir chinois et sa mafia. À tout de suite.
Jusqu'à 2h sur RTL, jour J, la rediffusion.
Maman a trop travailler. Maman devrait prendre sa retraite, maman elle est fatiguée. Maman aime trop ses cigarettes, maman donne beaucoup aux autres. Elle oublie sa santé à elle, maman devrait faire une pause. Maman me raconte sa journée, parfois j'écoute même pas. Maman m'attend pour déjeuner, elle me resserre trois fois. Maman aime me faire à manger, elle aime me traiter comme un roi. Elle a du mal à me partager, ma maman. Maman s'occupe de sa maman, maman sera bientôt épuisée. J'aimerais pouvoir monter dans le temps pour elle me laisser respirer. Maman aime les voyages, la lumière du soleil. Maman aime les images, les concerts, les poèmes. Maman aime la mer, les oiseaux, les voiliers. Mais maman n'aime plus papa. Papa aime les livres, la radio et le calme. Papa aime son chat, la guitare et le jazz. Papa aime la campagne, les feux de cheminée. Mais papa n'aime plus maman. Dites-moi, est-ce que c'est ma faute à moi? Dites-moi, est-ce que c'est ma faute à moi? Dites-moi, est-ce que c'est ma faute à moi? Si papa n'aime plus maman et maman n'aime plus papa, dites-moi, est-ce que c'est ma faute à moi? Dites-moi, est-ce que c'est ma faute à moi? Dites-moi, c'est pas de ma faute à moi. Si papa n'aime plus maman et que maman n'aime plus papa. Papa a trop travaillé, papa s'est oublié souvent. Papa il est fatigué, il voudrait rattraper le temps. Papa pense beaucoup aux autres, il passe son temps à les soigner. Il pense toujours que c'est de sa faute, papa a du mal à s'aimer. Papa aime quand on discute, tous les deux dans la cuisine. Des monologues de 10 minutes, à parler de livres ou de musique. Papa a les valeurs d'avant, il croit au travail. Papa aimait beaucoup maman. Papa m'a dit qu'il était fier. Papa il est trop gentil. Et moi je voudrais dire à mon père que c'est mon meilleur ami. Papa aime les livres, la radio et le calme. Papa aime son chat, la guitare et le jazz. Papa aime la campagne, les feux de cheminée. Et papa n'aime plus maman. Maman aime les voyages, la lumière du soleil. Maman aime les images, les concerts, les poèmes. Maman aime la mer, les oiseaux, les voiliers. Mais maman n'aime plus papa. Dites-moi, est-ce que c'est de ma faute à moi? Dites-moi, est-ce que c'est de ma faute à moi? Dites-moi, est-ce que c'est de ma faute à moi? Si papa n'aime plus maman et que maman n'aime plus papa. Dites-moi, est-ce que c'est de ma faute à moi? Dites-moi, est-ce que c'est de ma faute à moi? Dites-moi, c'est pas de ma faute à moi. Si papa n'aime plus maman et que maman n'aime plus papa.
Papa et maman, c'était Alien dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, vous l'écoutez, Antoine Witkin, qui est l'invité de Jour J, mais vous pouvez également retrouver sa série doc sur le site d'Arte ou sur YouTube. Série doc, donc, sur la mafia chinoise que l'on vous conseille, car vous en apprendrez bien plus. Vous nous le vendez bien, en tout cas, hein, parce que c'est super intéressant ce que vous avez fait et ce que vous avez vécu aussi, Antoine Witkin.
Ça m'a passionné et ça m'a permis de vivre certains des moments les plus dingues de ma carrière de journaliste. Donc,
j'imagine.
Je suis content d'en parler ce soir.
La mafia chinoise à la conquête du monde, donc c'est sur Arte. À la conquête du monde, effectivement, on va en parler. Parce que on a quitté Alvin Chow, on a quitté Xi Jinping, on est à Macao en 2012-2013. Xi Jinping est en train d'émerger, il est en train de lancer des opérations anti-mafia. En même temps, alors là, j'ai l'impression d'être dans le Far West, hein. En même temps, Dancassé sort de prison. Lui, il veut voir plus grand aussi, mais pour voir plus grand, il va falloir qu'il sympathise un petit peu avec le pouvoir chinois et qu'il se débarrasse d'Alvin Chow, on peut dire ça comme ça?
Exactement. Et c'est un moment, c'est un tournant, et il comprend, comme les triades le comprennent, qu'il y a un nouveau shérif dans la ville,
c'est
Xi Jinping. Que donc ça devient plus compliqué d'avoir des activités en Chine continentale. Alors pardon pour ces digressions, mais quand même là, elle vaut le coup. En 2012, il y a quand même une opération contre un village qui fabrique de la méthamphétamine, hein, qui est une drogue dans le sud de la Chine.
Ouais.
Il faut une nuit entière à l'armée chinoise pour prendre le village. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas, je sais pas où, en Centrafrique ou dans des états faillis. Là, on est quand même en Chine. Eh bien, il faut quand même des combats très longs pour reprendre la main sur ce village possédé par une triade. Donc, l'état central devient beaucoup plus répressif. Et donc, les triades comprennent que c'est fini ce temps-là. Que donc, maintenant, il va falloir, au minimum, trouver un compromis avec l'État. Alors, c'est pas la première fois. Dans les années 80, elles avaient déjà, les triades, dealé la rétrocession de Hong Kong et Macao à la Chine de manière soft et tranquille, à condition de pouvoir continuer leurs activités. Donc, elles avaient déjà ces liens. Mais là, effectivement, elles comprennent qu'il faut arrêter les activités criminelles en Chine continentale, mais qu'en revanche, à l'extérieur, voilà, elles ont toute latitude.
Et il y a donc, de nouveaux Eldorado, c'est ça ?
C'est ça, il y a de nouveaux Eldorado. Alors d'abord, dans leur base arrière de Hong Kong et Taïwan, effectivement, elles font comprendre à l'État qu'elles peuvent être utiles pour réprimer l'opposition à la Chine communiste.
Démocratique.
Ce qu'elles font en 2019 à Hong Kong, en littéralement avec des bâtons dans les mains, réprimant les manifestants qui s'opposent à l'emprise de la Chine. Taïwan, c'est encore un autre dossier, on en parlera peut-être. Et puis au-delà de ça, il y a le reste du monde. Et dans le reste du monde, quelqu'un comme Dancassé, effectivement, comprend qu'il peut aller s'immiscer le long des routes de la soie, donc ce projet d'infrastructure chinois, qui va en Asie centrale, qui va jusqu'à l'Europe. Et donc là, il fournit aux entrepreneurs chinois des services de sécurité. Il investit également dans des infrastructures au Kazakhstan, par exemple. Donc en fait, il est là, il a une sorte d'électron libre autour des activités de l'État chinois. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il est au service de la Chine très directement, mais il y a cette relation assez ambiguë qui est là aussi un des angles de ma série, c'est cette relation ambiguë, assez complexe, entre les triades et l'État chinois, et qui va jusqu'à nos portes, hein, puisque j'ai découvert qu'au Canada, par exemple, et bien là aussi, des triades s'adonnaient à ce genre d'alliance ambiguë.
On va en parler dans un instant. Donc, les liens entre le Parti communiste chinois et les triades, vous venez de le mettre en évidence. Dancassé, on le voit dans votre série doc et dans l'épisode numéro 3, a un petit peu des visions de grandeur. On a l'impression en fait qu'il a pris une carte du monde et qu'il a vu les points stratégiques et qu'il a décidé à un moment donné de s'y implanter. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, j'imagine.
C'est un peu ça et c'est très troublant. J'ai pas toutes les pièces du puzzle, hein.
Oui.
Mais par exemple, il va dans des toutes petites îles du Pacifique qui intéressent énormément la Chine, hein, parce que c'est stratégique d'un point de vue géopolitique. Il arrive, il s'implante, il corrompt le président et il s'implante. Et donc effectivement, ça fait dire à un des membres des services secrets australiens que j'interview, c'est quand même le hasard fait bien les choses.
C'est clair. Il s'implante aux bons endroits et en fait, il finit quelque part par tomber dans le viseur des États-Unis. Et Dancassé, on peut dire que c'est le premier membre d'une triade à être sous sanction d'un gouvernement américain.
Absolument, c'est ça. Pour ces raisons-là, effectivement, parce qu'il y a ces îles du Pacifique où il s'implante avec évidemment le soupçon de servir à travers ça les intérêts de la Chine communiste, ouais, qui essaye de s'implanter dans le Pacifique, ou bien en Asie du Sud-Est, eh bien effectivement, il devient tellement problématique que, vous l'avez parfaitement rappelé, le gouvernement américain le met sous sanction.
Donc ça devient politique aussi ?
Ça devient politique. Et ça l'empêche pas d'être reçu et hébergé par la Chine sans aucun problème. Alors même que ce personnage s'adonne quand même à des trafics de drogue, etc., etc. Enfin, je veux dire, il a des activités criminelles importantes.
On a consacré un numéro de Jour J au fentanyl. Le fentanyl, il revient dans votre documentaire. Les triades chinoises se sont déployées en Europe et puis surtout en Amérique du Nord. Et on va vous expliquer ça dans un instant, dans Jour J. À tout de suite.
RTL, Jour J, avec Flavie Flamand.
I tried once, twice, but I don't know how. How do I get your taste out of my mouth? You pick me up whenever I'm down, but when the highway's off, I'm still on the ground. Why are all the bad things that make you feel good things? They hide but never fix things. Make it feel nice things. They never think twice. When you're around, I'm lost, lost in a candy shop. And I tell myself it's gonna last when I know it's not. Why are all the bad things that make you feel good things? They have but never fix things. Whoa. Why are all the bad things that make you feel nice things? They never think twice. I hate it 'cause I'm needy.
C'était Lucinte avec Sweet Tooth sur RTL.
RTL, jour J, avec Flavie Flamand.
Vancouver est devenue la tête de pont, le point d'attaque pour les activités parrainées par l'État chinois dans le monde occidental. À Vancouver, on voit des agents du Front Uni, des agents du renseignement chinois, associés avec des trafiquants de drogue, agir pour miner la société canadienne.
Voici un extrait donc de votre série doc Antoine Vidkin et le journaliste canadien Sam Cooper qui répond à vos questions. Les triades chinoises sont implantées en Amérique du Nord et il y a un lien ténu entre le fentanyl, donc c'est ce qu'on appelle la drogue du zombie, hein, il y a des images qui ont choqué le monde entier, et justement la mafia chinoise.
Il y a un lien plus que ténu, hein. Il y a un vrai lien entre les deux. Pour faire très court, le fentanyl, les précurseurs du fentanyl, c'est-à-dire les produits qui permettent de créer le fentanyl, sont fabriqués en Chine continentale, dans des usines. Ils sont ensuite transportés vers notamment le Mexique. Et au Mexique, et là les triades sont évidemment dans le transport, et au Mexique, ils sont ensuite rétrocédés, vendus aux cartels mexicains qui fabriquent le fentanyl final. Ensuite, les cartels transportent en contrebande le fentanyl aux États-Unis, où là, effectivement, ce produit terrible ravage le pays. Et ensuite, évidemment, le problème principal des réseaux criminels, c'est le blanchiment de l'argent. C'est que vous vendez ça, ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous faites de vos masses de billets? Et là, les triades, dit-on, les réseaux criminels chinois, sont actifs pour blanchir l'argent. Donc, effectivement, les triades sont assez présentes dans ce trafic de fentanyl à destination des États-Unis.
L'Amérique du Nord, c'est une cible. Elles sont plus implantées, finalement, en Amérique du Nord qu'en Europe.
Oui, absolument, pour des raisons géographiques. Voilà. En fait, quand vous regardez une carte, la façade ouest des États-Unis ou du Canada, c'est en face de la Chine.
En France, ils sont du côté d'Aubervilliers, donc en banlieue parisienne, dans le domaine du textile.
Absolument. Alors, c'est pas forcément les triades, en fait, j'en sais rien. La police a beaucoup de mal à savoir de quelle organisation mère à Hong Kong, Taïwan ou Macao est proche telle ou telle organisation criminelle chinoise sur le sol européen. Mais en tout cas, effectivement, il y a quelques années, a été démantelé un très gros réseau de blanchiment d'argent autour, effectivement, d'entreprises de textile à Aubervilliers. Et les sommes étaient tellement importantes qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que, derrière, il y a peut-être à tel ou tel endroit des grandes triades historiques qui seraient présentes.
Il y a d'autres pays européens qui sont concernés?
Tous les pays européens sont concernés. Enfin, vraiment, en fait, c'est ce que d'ailleurs me dit à un moment le tyran de fer, dès que vous avez une diaspora chinoise, ça permet, effectivement, d'utiliser la présence de Chinois pour implanter des triades. Les communautés chinoises sont parfois, en plus, un peu repliées sur elles-mêmes pour des raisons linguistiques ou d'arrivée assez récente. Et les triades utilisent ça en commençant d'ailleurs souvent par racketter ou extorquer de l'argent aux communautés chinoises. Donc partout où il y a des diasporas chinoises, il peut y avoir des triades. Historiquement, ça a été le cas aux Pays-Bas, en Angleterre de manière très très forte, en Italie par exemple, en Espagne, en France, au Luxembourg, en Belgique. Donc en fait, partout.
Et puis l'actualité en 2024, c'est aussi le sort de l'île de Taïwan dont on parle régulièrement dans cette émission. Écoutez la crainte d'un député du Parti démocrate progressiste qui vient de remporter l'élection.
S'ils peuvent faire passer de la drogue, de l'argent ou des armes, un jour ils pourront contribuer à l'invasion de Taïwan.
Est-ce que c'est une inquiétude fondée, Antoine Vidkin?
Oui, c'est une inquiétude fondée. On l'a vu d'ailleurs en Russie, en Ukraine, lorsque l'armée russe a pris le Donbass à partir de 2014, elle s'est appuyée sur des milices, tout simplement, pour maintenir l'ordre ou pour servir de cinquième colonne. C'est la même chose à Taïwan. Ce député estime que les triades pourraient armer entre 6 000 et 12 000 hommes, ce qui serait une cinquième colonne assez utile en cas d'invasion. Donc oui, il y a ce risque, bien sûr. D'ailleurs, je pose la question un moment à la CLOP, dont on parlait au début de l'émission. Qu'est-ce que tu ferais en cas d'invasion? Et là, il répond quand même face caméra. Bon, moi, je suis plutôt pour éviter d'être mêlé à des choses trop politiques. On sent qu'il est attaché à Taïwan, hein, c'est son île. Mais il dit, mais bon, si l'organisation décide de le faire, j'aurais pas d'autre choix que de le faire aussi. Donc oui, bien sûr, c'est une crainte.
Merci beaucoup Antoine Vidkin d'avoir accepté notre invitation. Je conseille ce documentaire dont on a parlé ce soir en trois volets, hein. 3x52, c'est ça ?
3x60.
3x60 en